Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 19e dimanche.
Ne crains pas, tout petit troupeau. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez en aumône. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne s'épuise pas dans les cieux, où voleur ne s'approche et mythe ne détruit. Car là où est votre trésor, là sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître qui revient des noces. Ainsi, lorsqu'il vient et qu'il frappe, ils lui ouvrent aussitôt. Ils sont sur le droit chemin du bonheur, ces serviteurs que le maître trouvera en train de veiller à son retour. Amen, je vous le dis, il se scindra, il les fera mettre à table et passera pour les servir. S'il venait à la deuxième ou à la troisième veille de la nuit et qu'il les trouve ainsi, bonheur pour cela. Comprenez bien ceci. Si le maître de maison savait à quelle heure vient le voleur, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Ainsi, vous aussi, soyez prêts, parce que c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient.
Pierre dit alors,
« Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous ou bien aussi pour tous ?»
Le Seigneur dit,
quel est donc le fidèle intendant, le sage, que le maître établira sur ses domestiques pour leur donner la part de nourriture au temps voulu? Il est sur le droit chemin du bonheur ce serviteur que le maître trouvera au travail en arrivant. Vraiment, je vous le dis, il lui donnera la responsabilité de tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, « Mon Seigneur tarde à venir », et s'il se met à frapper, serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le Seigneur de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il se séparera de lui et lui donnera le sort des serviteurs infidèles. Ce serviteur qui connaît la volonté de son Seigneur et qui n'a rien préparé ni fait selon sa volonté sera beaucoup battu. Mais celui qui sans connaître fait ce qui est digne de coup sera peu battu. Pour toute personne à qui est beaucoup donné, beaucoup sera exigé d'elle. À qui on a beaucoup confié, on lui demandera encore plus. Auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Le texte de la liturgie de la messe est fort long et aborde des enseignements différents. Nous nous limiterons à l'enseignement qui concerne l'attente du Fils de l'homme.
Alors ces textes, bien, ils se trouvent dans la section que l'on peut appeler celle des exhortations et des conseils. Exhortations et conseils que Jésus donne à ses disciples alors qu'ils sont en marche vers Jérusalem. Jérusalem, où Jésus sera arrêté et condamné à la mort de la croix. Jérusalem, où va donc se faire le départ du Maître. Regardons surtout les paraboles des versets 35 à 40. Mais avant d'aborder le texte, donnons quelques précisions de vocabulaire.
Avoir les reins sains.
Au temps de Jésus, les hommes sont vêtus d'une longue tunique. Pour voyager ou pour travailler, on relève les pans de la tunique et on les attache autour des reins avec la ceinture. Ainsi, on est plus à l'aise dans ses mouvements. Avoir les reins sains, c'est donc être en tenue de service, en tenue de travail.
Tenir les lampes allumées.
À l'époque, bien sûr, il n'y a pas d'électricité, alors on s'éclaire avec des lampes à huile. Pour être certain d'avoir de la lumière, si leur maître revient en pleine nuit, il faut avoir une réserve d'huile, afin qu'on puisse alimenter les lampes pour qu'elles ne s'éteignent pas.
Au retour des noces.
Selon les coutumes de l'époque, les festivités des noces se prolongeaient très tard dans la nuit. L'expression signifie donc une attente indéterminée. Le maître doit bien sûr revenir, mais on ne sait pas à quelle heure de la nuit.
À la deuxième ou troisième veille.
Eh bien, on divisait la nuit en quatre périodes ou en quatre veilles. De 6 heures du soir à 9 heures, c'était la première. De 9 heures à minuit, la seconde. De minuit à 3 heures, troisième veille. Et de 3 heures à 6 heures, la quatrième veille.
Le voleur qui perce le mur de la maison.
Eh bien, souvenons-nous que les maisons de l'époque sont faites en bois et en terre. Il est donc facile de faire un trou dans le mur pour pénétrer dans la maison sans passer par la porte.
Quel est le sens de ces paraboles de l'attente ?
Eh bien, il s'agit de l'attente du Fils de l'homme. Ce titre de Fils de l'homme est celui que Jésus s'est lui-même donné. Et c'est un titre qui fait, comme on le sait, allusion au Fils de l'homme du livre de Daniel, au chapitre 7.
Voici que venait sur les nuées du ciel comme un Fils d'homme. Il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation, et langue le servait. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite.
Il s'agit donc d'un être humain à qui Dieu donne pouvoir sur le monde pour qu'il en fasse le règne éternel de Dieu. Un règne qui sera celui de Dieu parce que la Torah sera appliquée, parce que l'on vivra la miséricorde de Dieu. Ce règne de Dieu est promis aux disciples de Jésus même. S'ils sont un petit troupeau qui peut sembler sans importance, dans le concert des autres groupes religieux du temps, les pharisiens, les esséniens, les zélotes. Mais que doivent faire les membres de ce petit troupeau pour être prêts à recevoir le règne de Dieu? Ils doivent se tenir en état de veille pour servir à la fois le maître, mais aussi leurs frères et leurs sœurs. La première parabole illustre le retour du maître et ce qui arrive aux serviteurs en état de service. Ils seront eux-mêmes servis par le maître lui-même. On sait que Jésus accomplira ce geste du service lors du dernier repas, peu de temps avant sa mort.
Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres.
La troisième parabole montrera qu'attendre le retour du maître, c'est donner à chacun sa part de blé, c'est-à-dire partager le pain à ceux qui ont besoin. Et nous le savons, partager le pain, c'est partager le pain de la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas cette parole ou qui la méconnaissent. Voilà donc les attitudes que Dieu espère de ceux qui l'aiment. Car ce sera de ces attitudes que dépendra leur bonheur, heureux ce serviteur que son Seigneur trouvera à agir ainsi.
Mais quand sera la venue du Maître?
La première façon est de situer cette venue à la fin des temps. La Bible en effet parle de ce jour du Seigneur comme étant le dernier jour de l'histoire, le jour où se fera le jugement du monde. On parle souvent de la fin du monde, mais il serait peut-être mieux de parler de la fin de ce monde. Le jour du Seigneur est en effet la fin d'un monde plutôt que la fin du monde. La fin d'un monde qui est marqué par le mal, un mal puissant, destructeur, et ce sera le début d'un autre monde, un monde où il n'y aura plus de haine, plus de guerre, où Dieu et l'humanité seront réconciliés pour toujours. Alors quand ce monde, les bons et les méchants sont mêlés, comme dans le champ l'ivraie est mêlée au blé. À la fin des temps, il y aura séparation, les bons à droite et les mauvais à gauche, les uns ressuscitant pour un éternel bonheur, les autres pour un éternel malheur. Et pour décrire ce malheur, la Bible emprunte des images toutes faites, des clichés. C'est l'exclusion, c'est la mise à la porte du festin, ce sont les ténèbres, ou encore les pleurs et les grincements de dents, ou la géhenne, l'enfer. Jésus a utilisé quelquefois ces images dans certaines paraboles. Rappelons-nous la parabole des demoiselles qui attendent l'époux. Certaines ont fait sagement des réserves d'huile et leurs lampes demeureront allumées à l'arrivée de l'époux. Alors que les autres qui n'ont pas fait de réserve et qui doivent partir chercher de l'huile, eh bien quand l'époux arrivera, elles ne seront pas là et elles, à leur retour, elles trouveront la porte fermée et elles seront exclues du festin.
Comment comprendre ces images d'exclusion qui semblent contredire l'enseignement de Jésus sur la miséricorde de Dieu?
Eh bien, d'abord, il faut toujours se rappeler que la façon de comprendre Dieu a évolué tout au long de l'histoire biblique. Pendant longtemps, on a mis l'accent sur un Dieu juste, un Dieu qui récompense les bons et qui punit les méchants. Et de là, d'ailleurs, est née cette idée d'accumuler des mérites auprès de Dieu, afin que nous soyons certains qu'il va nous aimer. C'est sans doute en regardant le monde, la création, que la pensée biblique va évoluer au long de l'histoire. En effet, la pluie tombe aussi bien sur les terres des gens qui sont justes que sur les terres des gens qui sont méchants. Le soleil brille aussi bien pour ceux qui sont bons que pour ceux qui sont mauvais. Donc si Dieu, lui, qui est tout amour, ne fait pas de différence entre les bons et les méchants sur cette terre, c'est que sa bonté, sa miséricorde, est plus importante encore que sa justice. Il ne cherche pas à punir, mais à pardonner. Nous sommes, tout au long de l'histoire, dans le temps de la grâce de Dieu. Et c'est le grand message de Jésus, tel que Luc le décrit lors de la visite à Nazareth. Jésus prêche que le temps de l'histoire est comme un an de grâce continuelle.
Le souffle spirituel du Seigneur Dieu est sur moi, car il a fait de moi son Messie, pour annoncer un message de bonheur aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers et le retour à la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'an de grâce du Seigneur.
Cet an de grâce devait avoir lieu selon le livre du Lévitique, tous les 50 ans. Cette année-là, les dettes de tous devaient être remises, les esclaves devaient être libérés, les propriétés hypothéquées devaient être rendues à leurs propriétaires d'origine. Cette situation, annoncée par Isaïe, ne s'est peut-être pas réalisée pleinement. Mais l'oracle du prophète était ainsi repris par Jésus pour annoncer ce que devrait être la tâche du Messie. Cette grâce, comme on dit faire grâce à quelqu'un, devait bien sûr s'entendre de tout ce que l'on a dit, des libérations, de la remise des dettes, etc. Mais elle devait aussi s'entendre au plan spirituel. Ainsi, Dieu est celui qui fait grâce, qui n'a de cesse de faire grâce. La description de Dieu que nous donne le livre de l'Exode et celle du Père, telle que Jésus le révélera.
Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché.
Certes, Jésus ne nie pas le jugement comme conséquence de la faute, de nos fautes, mais il dira que ce jour du jugement, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, sinon le Père et lui seul. C'est ce visage de Dieu, d'un Dieu qui n'a de cesse de faire grâce, que Jésus a prêché toute sa vie et qu'il a pleinement révélé en livrant sa vie par amour en geste de pardon.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Le jugement de séparation définitive entre les bons et les mauvais ne se fera donc pas dans ce monde. Une superbe parabole de Jésus nous décrit par ailleurs quel est le critère essentiel qui sera celui du jugement de Dieu. Écoutons ce texte de Matthieu qui nous est déjà bien connu.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations s'assembleront devant lui et séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, héritiers du royaume de Dieu, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez revêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu me voir. Et les justes lui répondront, « Mais quand, Seigneur, est-ce que nous t'avons nourri, accueilli, vêtu, visité ?» Et le roi leur dira, « Amen, je vous le dis, ce que vous avez fait à un seul de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Il y a là une belle illustration de cette venue du Fils de l'homme. Il vient dans nos vies et il nous surprend d'une certaine manière toujours. Comme le voleur, la venue du Fils de l'homme n'est pas programmée, annoncée à l'avance. Il ne vient pas sous les traits que nous imaginons, c'est-à-dire sous les traits d'un Seigneur puissant, admirable. Il vient au contraire sous les traits des petits et des pauvres. Pourquoi ? Eh bien, c'est que les gestes faits aux petits sont des gestes de tous les jours, mais ils ont cette particularité qu'ils sont des gestes purement gratuits. En effet, on ne donne pas un verre d'eau pour être payé. On ne visite pas un malade pour recevoir des visites en retour. On n'accueille pas l'étranger pour qu'il nous rende l'appareil. Le prisonnier ne pourra pas nous rendre notre visite. Ces gestes sont semblables à ceux qu'un serviteur accomplit pour bien remplir sa tâche, c'est-à-dire préparer le dîner, faire le service. On ne lui donne pas pour cela une récompense supplémentaire, parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Nous ne sommes que des serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir, comme dit la parabole des serviteurs au chapitre 17 de Luc. C'est à travers ces gestes quotidiens, gestes que nous faisons sans calcul, que se réalise pour nous la visite du Fils de l'homme. Si Dieu nous apparaissait sous les traits des puissants des grands de ce monde, nous serions peut-être enclins à le servir par intérêt pour en obtenir des bonnes grâces. Les gestes faits envers les petits nous apprennent d'une certaine manière quelle est la manière d'agir de Dieu. En effet, ces actions sont des actes de véritable amour. Et Dieu qui n'est qu'amour ne peut accomplir que des actes gratuits. La vie véritable est faite de cet amour gratuit, et ce sont ces gestes qui vont garder notre cœur vraiment vivant. Vivant non seulement pour cette vie, mais vivant pour l'éternité, puisque aimer gratuitement, c'est vivre comme Dieu qui est éternel. Illustrons cela par les paroles d'un très beau chant de Pierre Griolet.
Frappe à ma porte, toi qui viens me déranger. Frappe à ma porte, tu viens me ressusciter. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, tout le vent de ton esprit. Frappe à ma porte, le cri de tous mes frères. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte le cri de tes affamés. Frappe à ma porte la chaîne du prisonnier. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, toi, la misère du monde. Frappe à ma porte, le Dieu de toute ma joie. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur.
La visite du Seigneur se fait dans la nuit. Cette nuit qui est celle de ce monde où tant de mal se trame, où des êtres humains sont affamés. 1 milliard de fils et de filles de Dieu ne mangent pas à leur faim sur cette terre du XXIe siècle. Un monde où des pères et des mères sont sans travail et ne peuvent pas donner le nécessaire à leurs enfants. Un monde où des jeunes se suicident parce qu'ils sont sous-alimentés au plan spirituel, où de vieilles mamans, de vieux papas sombrent dans la solitude. La parabole nous dit que le maître de maison, le fils de l'homme, se met en tenue de serviteur et qu'il fait le service de la table. Jésus l'a fait pour ses disciples lors du dernier repas, et nous le revivons à chaque Eucharistie. Le fils de l'homme nous montre ainsi le chemin de l'amour vrai, qui est de servir, de ne pas rechercher les honneurs dans le travail, de ne pas faire régulièrement des heures supplémentaires alors que le patron pourrait engager un chômeur, d'inviter des voisins sans autre raison que la joie d'être ensemble, de faire un téléphone à celui ou à celle que l'on sait seul et pour qui nous savons que ce sera une joie, et cela même si c'est toujours nous qui prenons l'initiative d'appeler, de prendre un jeune qui fait du pouce même s'il n'a pas l'allure que l'on souhaiterait, d'offrir un cadeau, de rendre service, par bonté tout simplement, de faire le premier pas dans une réconciliation. Ces gestes-là sont ceux qui nous font vivre à la manière de Dieu, et c'est cela qui fait la ligne de partage entre celui qui est un artisan de paix et celui qui engendre la mort. Jésus nous donne cette image.
Je vous le dis. En cette nuit, deux personnes seront attablées ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux personnes seront ensemble en train de moudre la farine. L'une sera prise et l'autre laissée.
Oui, l'une est prête à partager la joie de la fraternité, car elle a l'habitude du partage. Alors que l'autre n'y est pas préparée, car elle n'a, sur cette terre, vécu que pour elle-même. Et elle s'est donc exclue du partage de la joie. Son cœur s'est endurci, il ne connaît pas le goût de l'amitié. Alors cette personne est malheureusement séparée de Dieu et des autres, et dans l'autre vie elle demeurera séparée, parce qu'elle a, d'une certaine manière, perdu son âme. Et cette séparation douloureuse est moins la punition de Dieu que la conséquence des actes de la personne. C'est chacune, chacun, qui forgeons notre destin de mort en refusant le don de nous-mêmes. Mais la personne qui vit le partage, le service, la bonté, celle-là est sur le chemin du bonheur. Elle a été attentive à la visite de son prochain. Elle a su donner à l'autre sa part de nourriture, sa part de tendresse et de joie. Elle a gardé son cœur ouvert à l'autre. Elle a sauvé son âme. Et alors, elle est prête à la résurrection pour une vie qui ne finira pas.
Ces paraboles sont-elles destinées aux ministres de l'Église ou bien sont-elles dites pour tous les disciples de Jésus?
Jésus semble répondre à la question de Pierre « Pour qui parles-tu ?» en mettant en scène un gérant qui est chargé des employés de la maison. Ce serait dire donc que des ministres de la communauté, on attend qu'ils soient de vrais serviteurs comme l'a été leur maître.
Que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Moi, je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert.
Mais la parabole du jugement dernier en Matthieu, elle semble claire. Il ne s'agit pas là uniquement des ministres, des responsables de la communauté. Dans cette parabole, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. C'est chaque chrétien, chaque chrétienne qui est au service de ses frères et de ses sœurs. C'est chaque chrétien et chaque chrétienne qui doit rompre le pain de la fraternité et le pain de la parole à son prochain. Chacune et chacun doit à son prochain la part d'amour qui fait vivre aujourd'hui et pour toujours. Frappe à ma porte, toi qui viens me déranger, frappe à ma porte, tu viens me ressusciter.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Le numéro 514-256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Voici l'adresse de notre site, les www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. www.relaismontroyal.com. Si vous voulez également vous abonner, soit au feuillet, soit aux cassettes, téléphonez-nous et nous vous donnerons les tarifs des abonnements.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, revenez-nous la semaine prochaine. Et en attendant, ne laissez pas le pain sur la table sans en faire votre nourriture.